D'accord. Alors, est-ce que tout le monde entend bien, là, dans le fond de la salle? Parce que je sais que j'ai une voix qui porte vraiment pas beaucoup. Est-ce que tout le monde est OK avec ma voix? Très bien. Alors, moi, tout comme Sylvain Mandon tout à l'heure, je ne suis pas un décideur, mais je travaille à la ville de Paris, dans la division qui pilote le plan climat de la ville. Et ma mission en particulier, c'est de proposer, développer une stratégie d'adaptation au changement climatique pour la ville, qui sera ensuite, bien sûr, à valider avec les décideurs. Mais le point de vue que je vous apporte aujourd'hui, c'est vraiment sur la constitution d'une stratégie d'adaptation, quelles sont les incertitudes auxquelles on est confronté et comment essayer de passer outre. Alors, déjà un petit point sur l'adaptation au changement climatique à Paris. On ne part pas de zéro. À Paris, on a un plan climat qui a été voté depuis 2007, déjà depuis octobre 2007, donc bientôt 5 ans. Qui porte très majoritairement sur l'atténuation au changement climatique, donc essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre en ce qui concerne le cadre bâti, l'urbanisme, les transports principalement. On avait quand même, dès 2007, un volet adaptation qui portait principalement sur les risques de chaleur, suite à la canicule de 2003 en fait, et un petit peu aussi sur les inondations. Alors là, contrairement à ce qui a été dit ce matin, en fait, le principal volet de l'adaptation, c'était la végétalisation de la ville. Dès 2007, on avait pour ambition de créer des nouveaux espaces verts en ville et de végétaliser la ville pour la rafraîchir. En termes de suivi du plan climat et aussi d'adaptation à la ville de Paris, on établit aussi tous les ans des bleus climat. Donc c'est en fait des sortes de rapports d'activité du plan climat pour voir tous les ans comment les actions mises en place évoluent. Donc on a un suivi en fait de la végétalisation de la ville, notamment dans ces bleus climat. On avait aussi, dès 2006, en fait, quand on préfigurait le plan climat, on a établi un livre blanc. Donc c'est un livre qu'on a demandé surtout l'avis des citoyens, donc qui s'appelait « Quel temps fait-on demain ?» où on avait déjà recueilli pas mal de propositions en termes d'adaptation. Donc tout ça, ça reste, c'est de l'information qui reste capitalisée en termes de vulnérabilité d'adaptation. Maintenant, en 2012, on est dans un processus de révision du plan climat. Déjà parce que dès 2007, c'était prévu comme ça dans le texte. On s'était dit que le plan climat serait un processus de révision, que tous les 5 ans, on viendrait réviser ce plan d'action. Et en plus, ça a été conforté par les lois Grenelle. Comme notre plan climat a été daté d'avant 2008, on devait se mettre en conformité et réviser avant le 31 décembre 2012. Donc cette année, 2012, on révise le plan climat, on fait le bilan de tout ce qui a été fait et on profite de cette révision pour développer la partie adaptation d'une façon plus large que chaleur et inondation. Et donc pour ça, on est en train de faire une étude de vulnérabilité du territoire, vulnérabilité de Paris. Face au changement climatique, et la commande politique, c'est aussi d'étudier la raréfaction des ressources au sens large, donc ressources énergétiques, ressources en eau, ressources en alimentation, ressources en biodiversité. Donc tout ça, ça fait partie de l'étude de vulnérabilité qu'on est en train de mener et donc qui va permettre d'étendre ce volet adaptation pour la ville de Paris. Alors, outre le plan climat, on a aussi d'autres plans qui ont été votés, qui sont portés par d'autres divisions que la mienne à la ville de Paris. On a le plan biodiversité, donc, qui a été adopté l'année dernière, qui porte aussi ses engagements forts donc, de maintien de la biodiversité, de aussi élaboration de trame verte, trame bleue. Il a pour engagement fort notamment de créer 7 hectares de clôtures végétalisées à horizon 2020 dans Paris, 40 nouveaux espaces humides ou mares, donc c'est quand même assez conséquent. On a également un livre bleu sur l'eau, donc là mené par la direction de l'eau, qui prend en compte à la fois les questions de production d'eau potable, mais aussi d'assainissement, et aussi il y a une partie d'adaptation au changement climatique par rapport à la ressource en eau et à l'usage de l'eau dans cet ouvrage. Alors, si je reviens maintenant à l'étude de vulnérabilité face au changement climatique, on a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est d'avoir un diagnostic des enjeux pour Paris. Pour Paris, au sens large, à la fois la population, le territoire, les ressources, les activités. Mais c'est aussi, comme je disais en introduction, de préparer la stratégie d'adaptation et d'initier la réflexion, de mobiliser les différents acteurs. Donc c'est un processus qu'on essaie de faire vraiment participatif, en fait, en reprenant des entretiens et l'avis de différentes personnes. Donc, vers le plan d'adaptation, Voilà, on a fait un comité de lancement en février où on avait 55 participants. Au cours de l'étude de vulnérabilité, on mène des entretiens pour recueillir le point de vue des gens. Et il va falloir qu'on mène une phase de hiérarchisation des enjeux. Donc tout ça, c'est un peu ce qu'on fait dans l'étude de vulnérabilité. Mais la vraie question qu'on a, celle que j'ai mis en rouge, c'est comment passer de cette analyse de vulnérabilité et de robustesse à une stratégie et un plan d'action en termes d'adaptation. Comment passer de l'un à l'autre une fois qu'on a l'objectif? C'est vraiment là où on en est en ce moment à Paris dans la réflexion. Alors, la stratégie qui a été adoptée, c'est de partir de certitudes. Après, j'arriverai sur les incertitudes. Il y a eu des événements climatiques ou météorologiques passés à Paris qui se sont produits. Donc, la canicule de 2003, tout le monde s'en souvient. À Paris, c'était quand même 5700 morts en plus. Donc ça, ça a eu des conséquences. Ça s'est produit. On parle d'événements passés. Quand on parle aux acteurs de la canicule, ils savent décrire les effets que ça a eu sur leur activité. On a aussi des vagues de froid. On a des vagues de froid qui se sont produites notamment l'hiver dernier, avec des gels de canaux. Tout ça, ça a des répercussions sur les activités de la ville, sur le salage des routes. Donc tout ça, quand on interviewe les directions de la ville et les acteurs, pareil, ils savent en parler. On a eu des inondations. Alors là, le problème, c'est que les inondations de par crues de la Seine remontent à quelques années. La dernière en date, c'est 1982, donc ça fait 30 ans. Donc ça commence à partir des mémoires. Donc ça devient un peu plus compliqué d'agir sur les inondations à Paris. Et puis on a aussi des aléas fortes pluies, des aléas orages qui se produisent à Paris. Également des tempêtes. Donc en fait, la tempête qui a le plus touché Paris, c'était 99, le Tarn et Martin, avec des dégâts assez importants sur les bois de Vincennes et de Boulogne. Donc, par rapport à tous ces risques, tous ces aléas qu'on a déjà eus à Paris, il y a des plans d'action qui se sont déjà mis en place. Et là, pas besoin qu'on arrive au plan climat avec la stratégie d'adaptation, ça existait déjà. Tout ce qui est plan canicule, le registre Chalex pour que les personnes âgées s'inscrivent sur le registre et qu'on puisse les suivre en cas de canicule, les plans d'urgence hivernale, les plans de prévention des risques d'inondation, tout ça, c'est vrai que ça existait déjà. Et du coup, il existe aussi des documents cadres sur la gestion des risques, d'ailleurs pas forcément climatiques à Paris, comme le plan communal de sauvegarde, les plans de continuité d'activité, un dossier d'information communale sur les risques majeurs, c'est un dossier que théoriquement chaque Parisien devrait avoir à connaissance pour se préparer en cas de risque et savoir quoi faire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en effet, ces documents existent. La ville de Paris, comme la plupart d'autres communes en France, sont soumis réglementairement à faire ce genre de documents ou le font volontairement. Maintenant, comment passer à une prise en compte de ces risques dans une logique d'adaptation au changement climatique. Ce que j'essaie de montrer avec ce schéma-là, c'est que on a déjà une sorte de vision de la gestion de certains événements extrêmes, les canicules, les inondations, les grands froids, c'est déjà plus ou moins arrivé à Paris. Seulement, maintenant, il faut essayer de passer à la vague d'après, qui est comment le changement climatique, avec des changements de tendance, des changements du climat moyen, peut aussi influencer la vie à Paris, notamment en termes de santé publique, en termes d'activité économique, peut-être de report de tourisme, peut-être en termes de consommation d'énergie également. Et comment le changement climatique peut agir sur la raréfaction des ressources, donc notamment l'eau, notamment l'alimentation. Donc tout ça, c'est un peu cette étape qu'on essaie d'amener avec la stratégie d'adaptation. Et les élus, les décideurs, certaines personnes veulent même amener un changement de paradigme. Alors là, je vous ai mis quelques illustrations d'une exposition qu'on a créée fin 2010. Donc c'est une exposition qui s'appelle « Plus de degrés Paris s'invente ». On a essayé d'imaginer la ville de Paris dans 100 ans avec un réchauffement climatique de plus de degrés. Donc c'est une vision très utopiste et positive de la ville de Paris. Si on voit en haut à gauche, là, ça a l'air d'être un petit peu flou, on a ouvert le canal Richard Lenoir, on arrive sur la place de la Bastille, et puis on a imaginé différents niveaux de trottoirs où, en fonction de la crue ou des crues du canal, les gens pouvaient toujours continuer à circuler. On imagine, pareil, en bas à droite, avec des crues de la Seine, des gondoles à Paris. Enfin, c'est vraiment une vision tout à fait utopiste, et ça me fait un peu penser à ce que présentait ce matin Stéphane. On essaie d'imaginer le futur, finalement on n'est absolument pas sûr que ça va se produire comme ça. Si ça tombe dans 100 ans, ça ressemblera absolument pas à ça, et on rigolera bien de ce qu'on avait prévu 100 ans auparavant. Et pourtant c'est une image que des images, parce qu'on a fait ça sur les 20 arrondissements de Paris, des images qu'on utilise parce qu'on se rend compte que ça donne ça met dans un contexte positif par rapport au changement climatique, ça évite l'image anxiogène, et donc on essaie d'amener ça. Alors, si je reviens vraiment sur l'élaboration d'une stratégie d'adaptation, quelles données d'entrée on a à la ville de Paris pour faire ça? On en a plusieurs. On s'appuie sur des résultats de programmes de recherche, notamment EPCA, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mené par Météo France en Ile-de-France, qui remodélise Paris en termes de canicule et modélise des résultats en termes d'adaptation, notamment végétalisation de la ville, combien ça se manifeste en termes de réduction de température à Paris. REC6, CLIMSEC, CLIM2 sur la climatisation, SCAMPAY sur les modélisations climatiques plus régionales, bien sûr les résultats du GIEC. Donc ça, c'est des résultats scientifiques qui nous intéressent, qui nous interpellent. Le seul souci avec les programmes de recherche, c'est qu'il faut qu'ils soient assez vulgarisés pour qu'ils soient compris par les décideurs. Il faut aussi que les résultats soient disponibles. Il y a beaucoup de projets de recherche qui se lancent en ce moment, et les résultats sont dans 3 ans, mais ça ne colle pas avec les mandatures. Les élus, dans 3 ans, ça tombe, ils ne seront plus là. Donc il nous faut des données plus rapidement que dans 3 ans. Donc ça, c'est par rapport au programme de recherche. On utilise aussi des informations qui proviennent donc des entretiens, d'interviews, les acteurs du territoire. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans l'étude de vulnérabilité. On utilise aussi d'autres plans d'adaptation, donc le PNAC, Plan National d'Adaptation au Changement Climatique, ou l'adaptation du plan régional pour le climat de la région Île-de-France. Tout ça, ce sont des sortes de thématiques d'adaptation qui sont vues à une échelle plus large que la ville de Paris. On essaie de voir ce qu'on peut aussi tirer de là pour Paris. Bien sûr, l'ONER, que l'ADEME, la RAC France publie des documentations, mettent en ligne des outils, des bases de données qui nous sont aussi utiles. Donc ça, c'est des données très intéressantes pour nous en tant que ville de Paris. Et puis, il y a tous ces réseaux professionnels, un peu comme aussi aujourd'hui des conférences où je pense aussi notamment au réseau Vitech, Ville Territoire, Changement Climatique, qui regroupe des acteurs du territoire, notamment sur les questions d'adaptation au changement climatique. Tout ça, ça permet quand même de capitaliser beaucoup d'informations. Donc c'est très intéressant. Mais voilà, on arrive au cœur du sujet. Dernière partie de cet exposé, on est quand même soumis à de fortes incertitudes. Donc j'ai essayé de me prêter à l'exercice. Actuellement, dans l'élaboration de la stratégie d'adaptation, quelles sont les incertitudes auxquelles on est confronté? D'abord, des incertitudes sur les évolutions climatiques. Donc ça ne vous échappera pas, c'était tout le sujet de la discussion d'hier. Un niveau global, mais surtout un niveau local. Nous, à Paris, on est intéressés par le climat qui va faire à Paris. C'est intéressant de voir ce qui va se passer à l'échelle du globe, mais d'un point de vue décideur, d'un point de vue action, il faut qu'on sache ce qui se passe vraiment à Paris. Et on sait que la descente d'échelle, les modèles régionaux, autant en termes de température, on est plutôt certain de ce qui va se passer, on est dans des tendances à la hausse sur l'année. En termes de précipitation, c'est beaucoup plus compliqué. Alors quand on va voir des acteurs qui doivent dimensionner des usines d'assainissement, etc., c'est un peu compliqué. Autre type d'incertitude sur la réfraction des ressources associées, c'est aussi un peu lié aux évolutions climatiques, dont je vais passer très rapidement. Si on ne sait pas trop quelle est l'évolution de la pluviométrie, on ne sait pas trop non plus quelle pourrait être l'évolution de la ressource en eau, même s'il y a bien sûr des études et des tendances. Des incertitudes aussi sur les vulnérabilités et les opportunités futures. Là, je vous ai mis deux graphes. Un premier qui sort d'une étude qui s'appelle CLIM2, où Météo France avec Climespace ont modélisé la température à Paris en fonction du lieu et en fonction du type de climatisation mise à Paris. Alors là, on voit qu'il y a des différences de température en fonction de la climatisation qui est mise en place. Aussi, le graphe plus en bas à droite, c'est un graphe que j'ai repris de RTE, où ils expliquent que la consommation d'électricité diminue fortement en été. Alors oui, mais si on met en place des solutions de climatisation beaucoup plus facilement en été, est-ce que cette courbe de répartition ne va pas changer? Et donc du coup, quels sont les impacts en termes de vulnérabilité et d'opportunités futures? Alors, d'autres grosses incertitudes sur les réactions en chaîne, les effets dominos, ce que Sylvain a appelé tout à l'heure les effets rebonds, à la fois intra-Paris, j'ai envie de dire, tout ce qui est rupture de l'électricité, et donc du coup, toutes les activités qui sont associées, les transports, les bâtiments, mais aussi par rapport à d'autres territoires, parce que Paris, on est un peu le centre de l'Île-de-France, mais on dépend énormément de tout ce qui se passe en dehors du territoire, notamment en termes de ressources en eau, notamment en termes d'alimentation. Finalement, on importe énormément de choses et on dépend énormément d'autres territoires. Donc toutes ces réactions en chaîne et ces réactions avec d'autres territoires, c'est à prendre en compte. Alors, de grosses incertitudes aussi également sur la priorité des enjeux. Alors, comment tirer les principaux enjeux dans la masse, entre guillemets, d'informations du diagnostic de vulnérabilité? Maintenant, on sait qu'on est en train de faire ce diagnostic de vulnérabilité, on sait que s'il se passe ça, il risque de se passer ça, et donc, mais comment tout ça interagit et quel est l'enjeu prioritaire finalement? Comment déterminer vraiment la priorité? Est-ce qu'on peut donner une notation à la vulnérabilité? Et si oui, sur quels critères? Et si on donne des critères, est-ce qu'il faut établir une pondération? Comment estimer qu'une inondation, c'est plus important qu'une canicule d'un point de vue décideur? Tout ça, c'est des éléments qu'on n'a pas encore beaucoup, et donc il faut apporter les éléments d'une manière ingénieuse à des décideurs pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions et que on ne loupe pas des priorités, en fait. Enfin, surtout dans une période où la ressource financière est contrainte. Autre incertitude sur l'efficacité des mesures d'adaptation. Alors oui, on peut mettre en place de l'adaptation, mais est-ce que vraiment ça va être efficace? Est-ce que ça va avoir l'effet escompté? Quel coût? Quel financement? Quel temps de mise en œuvre? C'est un peu lié à l'efficacité. Tout ça, c'est des choses qui nous semblent vraiment très, très incertaines à l'heure actuelle. Aussi un côté sans regret des mesures et comment faire en sorte que certaines mesures d'adaptation ne soient pas antagonistes avec des mesures d'atténuation. Je prends un exemple très concret. On est en train de réfléchir à la stratégie d'adaptation pour aussi l'administration parisienne, donc les personnes qui gèrent les bâtiments, tout ce qui est crèche, école, gymnase au sein de la ville de Paris. On leur a dit pendant 5 ans, il faut atténuer, donc il faut isoler mieux vos bâtiments, il faut mieux consommer, il faut changer vos chaudières, il faut faire très attention à vos émissions de gaz à effet de serre, il faut vraiment bien isoler. Et maintenant, avec l'adaptation, on va venir avec un discours « Ah, il va faire de plus en plus chaud, donc il va falloir faire attention à votre climatisation, à votre rafraîchissement. » Et du coup, il nous tourne un discours en nous disant « Mais s'il va faire de plus en plus chaud, pourquoi est-ce qu'on isole ?» Et donc, c'est tout ce problème de ne pas brouiller les messages et vraiment fonctionner de pair entre atténuation et adaptation. Alors, autre type d'incertitude sur les innovations à venir. Donc là, j'ai mis quelques images de géo-ingénierie, donc, qui ne concernent pas d'ailleurs que l'adaptation. J'avais trouvé cet exemple de forêt verticale où ils construisaient des buildings un peu à gratte-ciel américaine en mettant des forêts. Est-ce que ça pourrait vraiment avoir un effet sur le climat? J'en doute si on considère la qualité des sols, mais bon, pourquoi pas. Des miroirs de l'espace, donc là c'était plutôt pour capter les rayons du soleil et éviter que le changement climatique n'ait trop d'effet. Des algues piégeuses de CO2, donc imaginez des sortes d'aquariums dans les rues pour que le CO2 soit piégé. Des îles artificielles, bon là, peut-on imaginer Paris en dehors de Paris? Donc voilà, quand même des grosses incertitudes sur les innovations. C'est un peu folklorique ce que je vous montre là, mais c'est histoire de s'imaginer des ruptures technologiques auxquelles on ne pense pas actuellement, qui risquent d'arriver tout de même. Et puis finalement, des incertitudes sur la meilleure manière de communiquer. L'exemple que je vous disais tout à l'heure sur antagonisme entre isolation et climatisation, ça peut arriver tout le temps. Quelle est la meilleure manière de communiquer pour ne pas brouiller les messages et puis pour agir finalement? Voilà, ça c'est juste un récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire, si vous voulez avoir une petite idée. J'ai certainement oublié des idées, mais c'est vraiment ça auquel on est confronté actuellement. Et pourtant, Et pourtant, il est vraiment nécessaire d'agir au plus vite. Et c'est très important aussi de concevoir l'adaptation avec l'atténuation. Pourquoi pas imaginer, donc là je vous ai remis deux images de l'exposition Paris plus 2, de la production maraîchère en ville, des oasis urbaines en ville aussi. Si on veut que ça se produise un jour, il faut quand même commencer à y réfléchir maintenant. Donc voilà, pour terminer cette présentation, une petite image pour dire qu'il y a quand même des mesures sans regret. Là, c'est l'image d'un changement, d'une conférence sur le climat où il explique toutes les mesures qui seront possibles, des meilleures villes, des énergies renouvelables, des emplois verts. Et quelqu'un dit, mais si c'était juste quelque chose qui ne se produit pas et qu'on crée un meilleur monde pour rien, et ben, c'est un peu la conclusion que je veux vous amener à dire. Finalement, on trouvera toujours des actions qu'on pourra mettre en place et qui auront un effet, même si ce n'est pas sur le climat, auront un effet positif ailleurs.
Ouais. Merci.